Vous êtes à l'antenne de CKRL 89.1. Raymond Poirier avec vous ce matin jusqu'à 9h, bien entendu. Et on débute ce matin la deuxième phase de cette réflexion qu'on a amorcée, qu'on poursuivra toute la semaine en route vers les élections municipales. Alors, des enjeux, des préoccupations, des réflexions qui pourraient peut-être animer les débats. Enfin, on l'espère, les débats électoraux, les débats lors de la campagne, et notre réflexion à nous en tant qu'électeurs. Alors ce matin, on va s'intéresser à des questions liées à la culture, liées au terroir. Alors en deuxième heure, on va dresser un bilan, soulever des questions, des réflexions autour de la gestion culturelle à Québec, des objectifs culturels de la capitale. Alors on va en discuter avec Antoine Léveillé, chef de pupitre musique au Voir, avec Jean-Pierre Gay, animateur de l'Aérospatiale, une émission dédiée aux arts visuels ici à CKRL, avec Marie-Ginette Gay, directrice artistique du théâtre Péri, et avec Thomas Louis Côté, directeur général du Festival de la bande dessinée francophone de Québec. Mais dans un premier temps et dans cette première demi-heure de la réflexion, on va plutôt s'intéresser à la culture en termes de terroir, en termes d'agriculture, en termes de produits locaux. Alors on va en parler avec Jacques Legros, qui est agriculteur, qui était candidat pour le Parti vert du Québec dans Montmorency, discuter au point de vue de l'agriculture biologique et de son développement dans la région. Et dans un premier temps, on ouvre la réflexion en compagnie de Marie-Serge Blais, notre chroniqueur gastronomie. Bonjour.
Bon matin, Raymond. Bonjour tout le monde.
Alors, on parle justement ce matin d'achat local, des possibilités pour nous, consommateurs, d'encourager les produits locaux.
Oui, absolument. Donc, dans les prochaines secondes, je vous apprends rien. Qu'est-ce que ça fait, nous, concrètement, quand on achète local? Plutôt que aller dans une épicerie, c'est pas toujours possible, hein. On s'entend, l'hiver, faut vivre avec notre climat, il fait froid, on n'a pas accès, là, c'est les fraises, c'est les belles grosses framboises qui sont arrivées, les tomates, basilic, là, on l'a, c'est la période. Donc, quand on peut le faire, sinon, à l'épicerie. Une épicerie standard, on parle de 2400, 4000 kilomètres que ça prend à se rendre de où ça vient à notre assiette. Donc, si on est capable de sauver ça, puis c'est-à-dire, j'ai acheté à l'île d'Orléans, j'ai sauvé du pétrole, j'ai sauvé l'effet de serre par les émissions de gaz carbonique, j'ai sauvé de l'emballage la plupart du temps parce que, bon, on voit les packagings, comment ils arrivent, les fraises, les gros plastiques, j'ai sauvé tout ça. Et quand j'investis au Québec, oui, même si on l'achète peut-être dans une épicerie, il y a quand même 85 % des revenus qui vont directement au producteur. Et l'inverse est aussi vrai. Donc, si j'achète des fraises des États-Unis, il y a 85 % de l'argent qui va aux fraises des États-Unis.
Donc, l'argent qu'on investit dans les produits locaux, mais elle reste au Québec.
Absolument. Ils disent, si on investissait 20 $ de plus par semaine à acheter local, on créerait des milliers d'emplois. Juste en faisant ce geste-là. Comme on se dit, c'est pas toujours facile à l'année. Mais autant que possible, si on peut le faire, faisons-le. Alors nous, en tant que consommateurs, c'est comment je fais, moi, pour encourager local à ce temps-ci de l'année, puis sans nécessairement aller virer à Lille, ou c'est pas dans mon horaire, ça marche pas, j'ai pas de voiture comme moi, quand je peux aller à Lille, je suis heureuse, mais sinon c'est difficile. Alors comment je peux faire? Il y a plusieurs façons. Peut-être que vous avez déjà entendu parler, j'avais un de mes collègues, moi, ici, qui me disait, « Ah, ben moi, je reçois toutes les semaines des paniers. » Puis là, ça a germé quelque chose en moi, parce que c'est toujours une surprise. Il n'y a aucune idée de ce qu'il reçoit. Il faut qu'il se débrouille pour faire quelque chose avec le panier qu'il reçoit. Toujours plein de légumes, 6 à 12 sortes environ. Et puis là, il se dit, « Bon, ben cette semaine, j'ai eu la patate bleue. Cette semaine, j'ai eu du rutabaga. Qu'est-ce que je fais avec ça? » Moi, je trouve ça très stimulant. Puis vous aussi, parce que, bon, on parle de bouffe, on parle de curiosité, on parle d'intérêt culinaire. Donc, c'était quoi ça exactement? Alors hier, je fais une petite recherche, je parle avec mon collègue, puis je me dis, bon, par où je commence? Panier bio, panier... Et très rapidement, je t'enverrai le lien aussi pour le blog. Je me retrouve sur le site d'Équiterre, qu'on connaît un petit peu avec Stephen Guilbeault, qui est le président maintenant, qui est fait avec Greenpeace Canada. Et, bon, qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? Ben justement, en hiver, on planifie pour l'été. Ce que ça fait, c'est qu'au printemps, on va sur le site d'Équiterre, on se fait parrainer par une ferme de la région, de Lille, de Deschambault, de Sainte-Catherine, qu'importe. Et on se fait parrainer par eux, et nous, on investit en eux. Au printemps, pour avoir 15 à 20 semaines de produits pendant l'été, genre pour une partie de printemps et automne. Eux, ce que ça leur fait, bon, ça leur donne des revenus, ça leur donne un coup de main en début d'année. Ensuite, ça leur permet de mieux planifier les récoltes, de bien gérer. Eux ont une responsabilité face à ça aussi. Mais nous, en tant que consommateurs, on est sûr que pendant 15 à 20 semaines, à chaque semaine, on va avoir des légumes frais, on va avoir souvent des produits bio. Pas nécessairement, mais la plupart du temps, oui. Ensuite, on connaît qui nous fournit. Si on a des demandes spéciales, moi, je suis allergique aux tomates, par exemple. Je le suis pas, mais advenant que je le sois... Bien, le producteur peut dire, ben, regarde, moi, je peux t'échanger cette semaine-là telle chose comme contre une autre.
Parce que, dans le fond, tu vas chercher le panier directement au producteur, dans le fond. C'est lui qui vient te le porter.
C'est lui qui vient nous le porter, en fait. Même pas besoin d'y aller. Toi, ben, on n'a pas de voiture, alors je peux pas y aller. Moi, je peux pas aller à Lille ou à Deschambault ou à Saint-Antoine toutes les semaines. Par contre, il y a 44 à 50 points de chute partout dans la région de Québec. Donc, il n'y a pas de raison. C'est très, très facile.
En fait, mon point de chute est à 5 minutes de mon domicile, de mon côté.
Ah bon, ben tu vois.
C'est proche.
C'est proche. C'est presque mieux que comme une auto. Non, je vous agace. Vous pouvez toujours aller sur place à Saint-Antoine ou à Lille ou quelque chose comme ça, mais il y a possibilité de l'avoir à 5 minutes, 10 minutes de chez soi, à toutes les semaines, très frais.
Et quand on parle aussi, parenthèse, de produits bio, on parle de produits sans additifs, sans agents de type anti... voyons, contre les bibittes ou
pesticides.
Des pesticides, des choses comme ça. Donc, il n'y en a pas.
Il n'y en a pas. Puis, il y a un souci. Puis, les gens qui le font, ils le font bien. Ils nous garantissent cette qualité-là. Il y a une demande pour ça, probablement que monsieur, tout à l'heure, va nous en parler aussi. Lui, veut aller vers le bio. Donc, pour nous éclairer à ce propos, qu'est-ce que ça implique. Mais on s'assure d'avoir quelque chose de frais, sans pesticides, naturellement exploité. J'ai fait des recherches au niveau de la viande parce que, bon, mon côté carnivore en moi voulait savoir s'il y avait l'équivalent en viande. C'est un petit peu plus difficile à ce moment-là. Il faut vraiment prendre contact avec le producteur même et puis acheter peut-être des boîtes ou des... J'ai vu un petit peu cette formule-là. Mais pour les points de chute, c'est un petit peu plus complexe. Peut-être qu'au marché, les producteurs qui sont là, le canard, le veau, l'agneau, pourraient développer ça, mais ce serait à voir aussi. Et toi, tu dis que tu en as un à 5 minutes, tu le fais?
Oui, mais en fait, avec le panier bio, ça fait 2 étés qu'on renouvelle l'expérience et on a pris un panier avec des amis aussi. Donc, question de bon, pouvoir avoir quand même une variété de légumes intéressante, mais pouvoir compléter avec peut-être d'autres trucs qu'on achète au marché directement. Mais ça nous donne une belle base et ça nous met en contact, ça nous met au courant, ça nous garde au courant des produits saisonniers. On veut pas, on sait, en voyant notre panier, on sait un peu qu'est-ce qu'on va retrouver aussi quand on va aller au marché, type de produit. Et en même temps, toujours un plaisir de consommer local et de se dire, ben, maintenant, j'ai 2 rutabagas, comme tu disais, qu'est-ce que je fais avec?
Oui, 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 c'est pas toujours évident, mais la grandeur du panier, parce que hier, en fouillant, ça m'intéresse beaucoup, je pense possiblement l'année prochaine y adhérer aussi, mais on parle de quoi pour une famille de 2, 3, 4?
Ben, je dirais, on prend un petit panier à 3. Et on en a amplement. Donc, je dirais, pour un couple, un petit panier, ça fonctionne très, très bien. Un grand panier, si vous avez une famille un peu plus grande. Donc, il y a quand même différents types de grosseurs de paniers disponibles. Donc, il s'agit de voir selon vos besoins. Mais à la limite, si vous n'êtes pas certain la première année, prenez-le à 2, prenez-le à 3. Et après ça, vous ajustez. Vous dites, ah, ben, finalement, j'en ai plus pris. Donc, j'en prendrai un tout seul ou on en prendra un à 2 l'année suivante. Donc, vous pouvez vous adapter un peu. Mais faites une période test, peut-être à minimum deux ménages, peut-être, sur un panier. Tout dépendant si vous êtes des gros consommateurs de légumes ou des petits consommateurs de légumes aussi, selon moi.
Ah, c'est intéressant. Oui, 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 définitivement. Donc, je suis contente. Nous avons un consommateur convaincu et convaincant, mais ça peut être une alternative très intéressante. Aussi, bien sûr, je vous en parle régulièrement. Il y a toujours les marchés publics. Je vous parle toujours du même parce que c'est dans mon quartier, mais c'est absolument faux. Sur Internet, on peut trouver des listes des marchés publics qu'on retrouve dans le coin, notamment à Deschambault, à Lévis, à Sainte-Foy, à Lobinière, Sainte-Anne-de-Beaupré, même à Fleur-de-Lys. Je l'oublie souvent, mais il y a un beau petit marché là qui se trouve à la place Fleur-de-Lys. Et puis encore là, bon, on a une proximité avec le producteur, on sait d'où ça vient. Qu'est-ce que je fais, moi, avec des rutabagas, justement? Et eux, habituellement, nous ont peuvent nous donner des pistes ou des recettes ou des idées de, moi, je le fais comme ça, je le trouve plus savoureux, ou cette semaine, il est plus sucré, vas-y de telle façon.
Et Marie Blais, autour de ces initiatives-là qui sont mises en place par le milieu, par les producteurs, donc quel serait le rôle à la fois des restaurateurs peut-être, à la fois aussi de potentiels élus municipaux? Donc comment continuer d'appuyer, de développer des initiatives comme celles-là qui sont nécessaires? Donc
ce serait de continuer pour les élus municipaux, de continuer de faire une sensibilisation de ça, de valoriser les marchés, d'investir dans les marchés possiblement. Les restaurateurs ont une partie importante. Nous, on mange 3 fois par jour, mais eux, ils nourrissent à journée longue des gens. Si on est capable de développer encore plus l'économie locale, l'agriculture, les partenariats, l'accessibilité à ça, la relève aussi, c'est dans la formation, c'est d'investir aussi dans les écoles, bien entendu, mais de valoriser, de prioriser ce qu'on a, de travailler avec les produits saisonniers. C'est pas normal qu'en plein milieu de l'hiver, on travaille la fraise qui est grosse, qui vient de la Californie, qu'on a dépassé des milliers de kilomètres avec ça. Faut aller avec ce qu'on a. Je vous dis pas qu'il faut pas le faire, mais l'hiver, il y a moyen d'avoir des fruits, pas de saison, bien évidemment, mais peut-être trouver d'autres solutions, peut-être travailler à ce moment-là avec les œufs qu'on a à l'année ici, avec le lait, avec les fromages qu'on a du Québec. Ça, c'est vraiment ça. C'est toujours de vouloir développer, de pousser, d'aller plus loin, d'encourager des gens comme M. Legros qui s'en vient ici, de développer et de sensibiliser, toujours.
Parce que la notion du menu, dans le fond, de se dire, en année longue, on n'est pas nécessairement censé avoir toujours le même menu, avoir toujours les mêmes produits, donc d'essayer de changer un peu nos habitudes pour mieux suivre le cours des saisons.
Ben ça, on pourrait faire une autre émission complète là-dessus, mais ne serait-ce que pour les poissons, on est à Québec, des fois c'est difficile d'avoir telle sorte de poisson, le thon rouge, je sais que certains endroits de sushi ont décidé de ne plus avoir de thon rouge, justement parce que bon, on les exploitait trop, c'était au niveau de la reproduction actuellement, c'est difficile, bon ben, nous, on fait le choix, on n'en sert plus. Ben pourquoi pas le faire avec d'autres choses, il faudrait développer une cuisine de terroir un petit peu plus, certains le font, ils le font très bien, j'ai vu Daniel Vézina au marché public souvent aller chercher ses propres légumes, puis dire, moi, je te prends ton restant de poireau, puis je vais travailler avec ça ce soir. Pas tous les chefs, surtout, qui ont le temps d'aller faire ça. Mais la jeune relève, nous, en tant que consommateurs, de faire des choix éclairés, de faire autant que possible, acheter Québec quand on peut le faire, ben mine de rien, ça crée des emplois, ça sauve tellement de choses, puis on sait d'où ça vient, puis ça reste, l'argent investi reste chez nous.
À garder en tête, peut-être, quand on réfléchira justement à quoi appuyer, à quoi choisir, à quoi faire nos choix en tant que consommateurs, puis à comment inciter justement les consommateurs aussi à faire ces choix-là. Je pense que c'est un travail collectif, en fin de compte.
C'est ça. Puis ça part de nous en premier, puis ensuite les autres suivront. Garde le panier, t'en fais partie, ça m'intéresse beaucoup. J'espère que j'ai suscité votre intérêt et votre curiosité par rapport à ça. D'ailleurs, sur le blog, je vous envoie les liens que j'ai trouvés pour ça, pour les points de chute, savoir qui contacter, ainsi que la liste des marchés publics du Québec, terroirquebec.com. Je vous envoie tout ça en rafale ce matin. Et consultez, c'est très intéressant, puis ça éclaire un petit peu et ça nous aide dans nos choix.
Ah ben Marie, Serge Blais, chroniqueur gastronomie, merci beaucoup.
Merci Raymond.
On poursuit donc ces regards, ces réflexions autour de l'agriculture, des produits du terroir. Et nous sommes maintenant en compagnie de Jacques Legros, qui lui est agriculteur, qui est également un ancien candidat au Parti vert de Québec pour la circonscription Montmorency-Charlevoix-Haute-Côte-Nord. Monsieur Legros, bonjour.
Bien, bonjour.
Alors ben, peut-être pour se lancer de manière générale, est-ce qu'on a l'impression que l'agriculture occupe toute la place qu'elle devrait occuper dans notre région, ou est-ce qu'on pourrait mieux la mettre en valeur?
La réponse, malheureusement, elle est non. L'agriculture n'occupe pas la place qu'elle devrait présentement. On est dépendant maintenant d'un système agricole qui est basé sur l'importation depuis la Chine et les pays d'outre-mer. Donc, on a vu une qualité de la nourriture baisser énormément. On voit des cas de... Le fait de la nourriture, que la nourriture ne soit plus saine comme elle devrait être, elle est polluée très souvent, des produits chimiques sont utilisés dans des pays où on n'a pas le contrôle sur la qualité, donc ça développe des cancers, des problèmes de santé. On a vu par exemple même de la mélamine dans la nourriture pour bébés qui provenait de Chine, ça c'est un bel exemple, et on n'arrête pas d'en voir des cas. Alors, il serait très important, je pense, entre autres pour quand on pense à la ville de Québec, de rendre accessible à la population une nourriture saine, une nourriture de proximité, une nourriture qui contribue à la santé. Parce que présentement, on le sait, hein, il y a un grave problème de santé dans notre société.
Et comment justement on pourrait réussir à mieux développer, à mieux encourager, à développer ce potentiel agricole-là, à mieux appuyer, dans le fond, les agriculteurs et les gens qui veulent développer l'agriculture?
Ben, c'est de développer une agriculture de proximité, c'est-à-dire, par exemple, redonner, on a de très beaux territoires agricoles tout près de Québec, on a l'île d'Orléans, qui est un magnifique territoire agricole, qui devrait redevenir le grand jardin des citoyens de la ville de Québec et des alentours. Ça, c'est une façon, c'est de faire un jumelage, finalement, entre la ville de Québec et les petites municipalités autour, puis les territoires agricoles autour. Et même, j'irais encore plus loin, c'est aussi de redonner des espaces verts qui permettraient même en ville, de refaire de l'agriculture comme ça se faisait autrefois, ramener un maximum de jardins et tout. Ça pourrait se faire par différentes mesures qui, une fois encore, pourraient contribuer au retour de la population, de la santé chez les populations, notamment en diminuant de façon très importante le parc automobile, qui, on le sait, on n'a pas le choix. Là, on s'en va, on est à l'époque des réchauffements climatiques, on est à l'époque où les cancers apparaissent de façon absolument aberrante. On arrive au Québec, un Québécois sur deux qui prend le cancer, on arrive à ce chiffre astronomique-là. Alors, il y a des raisons, il y a des causes à tout ça. Alors, il faut innover. Il faut donc diminuer le parc automobile de façon urgente, de façon très importante. Cesser d'utiliser l'essence comme carburant. On sait qu'on n'aura pas le choix de toute façon avec le réchauffement climatique. Et donc, développer un secteur de transport en commun que j'irais jusqu'à dire qu'il faudrait que ce soit gratuit carrément, très bien développé et gratuit pour la population. C'est des choix de société, ils s'imposent. Ce faisant, on pourrait rendre accessibles des nouveaux territoires pour permettre une agriculture, pour permettre un retour aux sources finalement.
Et j'ai l'impression que présentement, Jacques Legros, c'est à la limite le mouvement inverse qui se fait. On voit beaucoup au fil de l'actualité qu'on cherche à développer les villes, à étaler les villes. Et de plus en plus, on voit plutôt des pertes de terres agricoles qui sont transformées en zones résidentielles. Je pense en fait au Québec, on parlait de 100 000 fermes qui avaient été perdues en une dizaine d'années, là.
Ah, écoutez, ces dernières décennies, effectivement, là, on est en train de perdre toutes nos petites fermes au Québec. C'est au-delà de 100 000 fermes qui ont fermé. Effectivement, c'est catastrophique. Les petites fermes familiales sont en voie de perdition. On en perd encore chaque semaine. Oui, vous avez raison. Malheureusement, c'est le mouvement inverse qui se produit. L'industrie est très puissante. L'industrie du profit est très puissante. Nos politiciens, malheureusement, se laissent berner, se laissent acheter, j'irais jusque-là, là. Et de telle sorte que les décisions qui sont prises vont dans le mauvais sens. On a un gros exemple, le Rabascan, territoire agricole qui a été autorisé par le gouvernement, promu par le gouvernement, pour en faire un parc, une industrie dont on n'a pas besoin. C'est aberrant. Effectivement, on va à contresens présentement. On aura besoin de politiciens qui ont une vision d'avenir, qui pensent aux citoyens, qui pensent à la santé des citoyens. Donc, il faut vraiment rendre accessible à nouveau une nourriture saine, une nourriture de proximité, puis aussi une façon de faire les choses, une façon de vivre qui ne pollue pas.
Oui, c'est intéressant, en fait, que comme optique, et même que, comme vous disiez tout à l'heure, en fait, l'idée de ramener en ville des zones agricoles, des jardins communautaires, etc., donc de se dire, on densifie, mais une densification verte où on essaie de développer autre chose que des gratte-ciels, de faire pousser autre chose que des gratte-ciels.
Oui, oui, exactement. Cesser d'investir pour des équipements, là, des éléphants blancs, des équipements astronomiques, là, où les politiciens se disent tellement fiers de dire, regardez, on a une belle nouvelle salle de spectacle, on a une nouvelle aréna, on a un super hôpital qui s'en vient. Écoutez, faut arrêter ça, là. Faut arrêter de rêver, là. Faut revenir sur Terre. Il faut, c'est le cas de le dire, faut promouvoir, là, qu'est-ce qui est bon pour la population. C'est une nourriture saine. Qu'est-ce qui est bon, c'est de l'air respirable. Qu'est-ce qui est bon, c'est de la bonne eau. Il faut revenir aux choses simples. On parlait de l'île d'Orléans tantôt. Ce serait un territoire magnifique à devenir un grand jardin biologique pour les citoyens aux alentours. Ça, c'est un bel exemple. Et des territoires comme ça, il y en a plein autour de la ville. Il faut en créer de nouveaux aussi, effectivement. Pour ce faire, il faut une espèce de jumelage entre la ville de Québec, les petites municipalités autour. Il faut contribuer à faire un lien aussi avec les agriculteurs actuellement, leur donner là un support. Il faudrait que le gouvernement municipal fasse la job que le gouvernement fédéral et provincial ne fait pas. Moi, c'est ce que je crois de plus en plus.
Bonjour, Monsieur Legros.
Bonjour.
Moi, j'ai une question pour vous par rapport aux espaces verts qu'on pourrait implanter dans la ville de Québec. À ce moment-là, est-ce que ce serait parrainé par un agriculteur qui viendrait chapeauter tout ça pour donner des pistes, ou à ce moment-là, on se ben on va avec le comme les jardins communautaires actuellement, chacun y va de son terrain et chacun exploite selon ses besoins?
Je pense que les deux sont bons. Ce que vous venez de dire est très intéressant parce que la population de Québec est très de Québec, de Montréal. Écoutez, là, on va parler de Québec. Là, les citoyens sont très intéressés, effectivement, par une espèce de retour aux sources et un lien avec les agriculteurs. Oui, oui, les agriculteurs pourraient devenir comme des professeurs, quelque part, là, aider à réintégrer notre agriculture ici. C'est très clair. Et aussi aider à redévelopper des jardins communautaires. Oui, oui, créer des espaces verts, montrer à nos enfants comment faire pousser des légumes. On ne sait plus comment faire pousser des légumes. C'est la même chose au niveau de l'élevage. Il n'y a pas seulement que les légumes, il y a également les petites fermes. On doit manger de la viande, hein, mais on doit avoir accès à une nourriture de qualité, à des élevages de qualité. C'est la même chose.
Et j'ai l'impression, à la limite, que ça nous ramène presque à des questions de souveraineté alimentaire, tout ça.
Ça nous ramène directement à la souveraineté alimentaire. On l'a perdue. C'est vraiment triste. C'est même dangereux, je vous dirais, hein, avec ce qu'on connaît présentement. Imaginez là que la nourriture cesse de rentrer là, d'outre-mer. Là, parce qu'outre-mer, ben, les paysans là-bas, les gens là-bas, ben, cesseraient de laisser sortir leur nourriture. Ils voudraient reprendre aussi le contrôle de leur souveraineté alimentaire. On est dépendant maintenant. On est dépendant de ces pays-là. On est dépendant de l'importation. On ne produit plus ce qu'il faut pour nourrir nos populations. Il faut absolument retrouver notre souveraineté alimentaire par une agriculture de proximité.
Et tout ça, en fait, pour développer, on parle de volonté politique. Est-ce que ça dépend d'abord et avant tout d'une question de subvention, d'appui financier, ou il s'agit simplement de se dire, ben, on va le faire et de mettre les choses en place et il n'y a pas nécessairement de besoin monétaire majeur dans l'implantation d'une nouvelle manière de voir le développement agricole?
Ben, c'est sûr qu'il faudra qu'il y ait des choix de société de fait, comme je dis, des décisions politiques très importantes. Il faudra donner une nouvelle direction à notre agriculture. Ce n'est pas fait présentement. Comme par exemple, quand je vous parle de juste le projet de faire de l'île d'Orléans une île biologique pour en faire un jardin pour les citoyens de la région, politiquement, ben, personne ne fait rien. Ça fait des années qu'on a mis de l'avant ce projet-là et il n'y a malheureusement aucun support de ce côté-là. Ça devrait être c'est des décisions, il y a des règlements, il y a des lois à adopter, faut modifier les règles actuelles de faire et favoriser là, donc l'implantation d'une agriculture saine. Oui, il y a un support à donner présentement aussi au niveau des petites fermes. Les petites fermes sont abandonnées comme jamais présentement. Tout va vers l'industrie, tout va vers, par exemple, l'industrie porcine. Vous avez cité tantôt les chiffres que j'ai mis de l'avant lors des dernières campagnes électorales. On a au-delà de 100 000 fermes, petites fermes qui ont fermé au Québec. Oui, il y a ça, mais on peut aller plus loin que ça. On peut parler des 3 milliards qui ont été versés à l'industrie porcine ces 5 dernières années à partir des deniers des fonds publics, à partir de nos argents pour exporter du porc à l'étranger alors qu'il n'est même pas rentable. C'est aberrant. Alors que pendant ce temps-là, on refuse même le financement aux petites fermes. On refuse et les petites fermes se retrouvent comme nous. Là, on est pris à des taux de prêts absolument très élevés. Là, ça frôle presque les 30% dans certains cas parce qu'on n'a pas le support du gouvernement pour nos emprunts. On ne veut prêter. Les argents vont tous vers l'industrie, vers les grosses fermes industrielles.
Et en terminant, Jacques, le gros de tout ce qu'on a discuté ce matin, en route vers la campagne électorale municipale, quelle serait la question à laquelle on aimerait que les élus apportent réponse, les élus municipaux?
Qu'est-ce que vous faites avec la santé de nos populations? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce qu'on attend pour avoir des politiques qui pensent vraiment aux citoyens, à leur santé, à leur bien-être? Avoir de l'air de qualité, de l'eau de qualité, une nourriture de qualité. C'est la base.
Jacques Legros, donc agriculteur, ancien candidat au Parti vert du Québec pour Montmorency, Charlevoix, Haute-Côte-Nord. Merci beaucoup.
Je vous en prie, merci. Bonne journée.
Bonne journée à vous. Ah ben voilà, des réflexions autour du potentiel agricole de notre région qu'on pourrait développer. Il s'agit de voir, mais comme le dit Jacques Legros, on parle carrément, je pense ici, de choix de société qu'il faudra faire.
Et ce serait de voir qui, en fournissant les institutions, en fournissant les restaurateurs, imaginez le potentiel, il parlait d'un jardin bio pour l'île d'Orléans, le potager de Québec l'année passée, potager des visionnaires sur le toit du musée de la civilisation. On a été capable de fournir l'eau Brivière puis des organismes pendant un bon bout de temps. Pourquoi ne pas faire pareil avec l'île d'Orléans, de s'entendre avec les institutions, avec les endroits qui ont besoin de nourriture, de bonne nourriture, de saine nourriture. Imaginez le potentiel économique qu'on aurait là. Ce serait absolument exponentiel.
On lance la réflexion ce matin et on va la poursuivre également tout au fil de la semaine. Marie-Serge Blais, ben merci d'avoir passé ce moment avec nous.
Merci pour l'invitation, c'est très agréable.
On poursuit toujours ces réflexions ce matin autour de la question de culture. On va mettre un peu de côté la question de terroir auquel on s'est intéressé au fil de la dernière demi-heure pour maintenant s'intéresser aux termes donc en culture, en termes d'art, en termes de spectacle, de théâtre, de littérature, d'art visuel, etc. Alors, on a trois panélistes avec nous ce matin pour y réfléchir en notre compagnie. Alors, petit tour de table de présentation. Jean-Pierre Gay, tout d'abord, animateur de l'aérospatiale ici à CKRL 89.1, qui est la seule émission au Québec entièrement dédiée aux arts visuels. Jean-Pierre Gay, bonjour.
Bonjour.
Ensuite, on a avec nous Marie-Ginette Gay, qui est comédienne, qui est directrice artistique du théâtre Périscope. Bonjour.
Bonjour.
Et enfin, Thomas-Louis Côté, qu'on connaît notamment comme directeur général du Festival de la bande dessinée francophone de Québec. Bonjour.
Bonjour.
Alors, ben, peut-être j'aimerais commencer par des considérations générales, par des regards généraux. Si on dresse un tableau, que pense-t-on de la réalité culturelle de Québec, la gestion qui en est faite par la ville, si on met nos cartes sur table?
C'est une belle question, parce que moi, je parlerai pas nécessairement de la gestion que la ville en fait. On est dans un contexte de campagne électorale à venir et on est dans un contexte où on a un maire qui a de bonnes chances d'être plébiscité. Donc, moi, ce qui me préoccupe, c'est la vision que ce maire-là a de la culture. Et ce qu'on entend de lui laisse voir qu'il occulte un certain nombre de volets de la culture qui sont fort importants et fort dynamiques à Québec. Je pense à tout ce qui se fait en création, en art visuel, tout ce qui se fait dans les théâtres et tout ça. Et ça, il ne parle jamais de ça. Et ça m'inquiète parce que d'après moi, c'est pas nécessairement la ville comme telle, c'est pas l'administration de la ville, c'est la vision que ce maire-là a de la culture, qui est une culture de masse, une culture à caractère économique. Et ça pour moi, c'est d'occulter la vraie vie culturelle qu'il y a aussi à Québec.
Donc, dans le fond, la question de voir est-ce qu'on a une culture qui est trop axée sur les grands événements versus les productions au quotidien, entre guillemets. Est-ce que c'est une réalité que vous avez observée aussi de votre côté?
Pour ma part, je veux parler de théâtre parce que c'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui fait mon quotidien. Alors, pour ce qui est de la vie théâtrale à Québec, elle est très active, elle est très riche parce que d'abord, il y a une école de formation, le Conservatoire d'art dramatique. Il y a aussi l'université qui fait de la formation pour les jeunes en théâtre. Fait qu'il y a déjà une infrastructure qui est là, qui est très dynamique, qui est composée de théâtres qui sont très différents. On passe au théâtre institutionnel, le Trident, l'Abordé qui fait du théâtre populaire, Premier Acte qui est voué davantage à la relève, le Périscope qui fait davantage dans l'actualité, dans le théâtre de création. Fait qu'avec ça, il y a toute une synergie pour vraiment dynamiser le milieu théâtral, puis avec aussi l'apport des nouveaux venus et de tout ce qu'on fait, ce que la ville fait pour la relève, qui vient aussi pousser sur la dynamique de ce milieu-là. Fait qu'il y a déjà ça. La ville, avec ce que dit le maire sur la relève, encourage beaucoup la relève. Et peut-être que à ce moment-là, il y a comme une partie, une certaine génération qui se sent un peu laissée pour compte et qui aurait envie de profiter des avantages qu'ils n'ont pas eu eux quand ils étaient de la relève. Fait que là, il y a une espèce de trou qu'il faudrait arriver à combler ou en tout cas à rendre plus vivant, à encourager davantage, comme là une espèce de vacuum là qui est vécu par certains qui ne sont plus de la relève mais qui sont encore parfois, parce que des fois ça prend des années avant de dire qu'on est un artiste plus établi, parce qu'il faut faire ses preuves de plusieurs façons. Fait que des fois quelqu'un peut avoir 35 ans puis être encore à des premiers balbutiements, disons en écriture dramatique, même si comme comédien et une dizaine d'années d'expérience. Fait que tu sais, il y a là quelque chose à faire. En tout cas, il y a une attention à porter à cette génération-là, certainement.
Des réflexions autour, autour de la relève. Et peut-être je continue le tour de... Oui, Thomas-Louis, pour, si on continue le dressage de cartes, si on peut dire.
Bien, je crois que présentement, nous, dans le milieu littéraire, c'est quand même une bonne période suite à certains événements comme Québec Horizon Culture qu'il y a eu, où il a été annoncé la refonte de la bibliothèque Gabriel-Leroy 2.0, qui va vraiment dynamiser le côté bibliothèque dans le Vieux-Québec. Il y a aussi la mise en place de la Maison de la littérature qui va centraliser plusieurs organismes littéraires et permettre un échange peut-être de proximité puis vraiment s'assurer qu'il y a des nouveaux projets qui naissent de ça. Il y a aussi la mise en place de Première Ovation, le volet littéraire. Oui. Donc, depuis quelques temps, il y a vraiment c'est de plus en plus dynamique et des projets qui naissent de la Ville de Québec, entre autres, là, au niveau de l'administration. Là. Donc, c'est intéressant pour ça.
C'est assez structurant, ces choses-là.
Oui, oui.
Moi, je compléterais pour ce qui est du volet des arts visuels, qui est un volet extrêmement dynamique à Québec.
Oui.
Nous avons une émission ici à CKRL qui porte sur les arts visuels et qui touche essentiellement l'art contemporain, l'art actuel. Donc, on ne parle pas des artistes qui vendent dans les galeries du Vieux-Port ou du Vieux-Québec. Et nous avons reçu plus de 450 personnes différentes à cette émission, dont plus de 325 qui viennent de Québec. C'est dire comment ce milieu est... Et on n'a pas tout couvert et on n'a pas la prétention d'avoir encore fait tout le tour de ce milieu-là. Donc, c'est un milieu qui est extrêmement créatif, extrêmement dynamique. Il y a des artistes de pointe ici à Québec, des artistes qui sont connus internationalement, des artistes qui de la relève. On a un peu aussi le même problème dans le domaine des arts visuels entre cette génération de jeunes de la relève qui sont quand même supportés. Je pense aux 17 étudiants qui ont fini cette année à la maîtrise à l'Université Laval, qui ont eu droit à leur exposition, mais qui, pendant quelques années par la suite, vont tomber dans une espèce de trou vide et vont devoir se faire un chemin. Et une génération d'artistes établis. Entre les deux, il y a aussi un peu ce problème-là. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un milieu qui est extrêmement créatif, imaginatif, dynamique et très présent dans le paysage culturel de Québec. Il y a des galeries, des centres d'artistes, des centres comme Morgan Bridge, qui est un milieu, une galerie d'art alternatif, d'art, ce qu'on appelle de l'art de la rue, qui est très dynamique, très en lien avec des villes comme New York et des villes européennes. Un centre comme Le Lieu, qui est en lien avec l'Amérique du Sud, avec Cuba, avec beaucoup de pays d'Europe. Donc, Québec est un creuset pour toute une série d'artistes d'ici qui se font aussi valoir à l'extérieur.
Et en même temps, quand on parle de la question de relève et de cette génération oubliée, peut-être pour reprendre les mots de Marie-Ginette Gay, est-ce que là, un danger, dans le fond, de se dire que si on appuie beaucoup la relève, si on mise beaucoup sur la relève, qu'on risque tout simplement de retarder un certain exil, de retarder un peu l'étape où un artiste de tout style va se demander, est-ce que je reste à Québec ou est-ce qu'il faut que j'aille faire carrière ailleurs pour réussir à vivre de mon art? Et en ce sens, est-ce qu'on est en train de mettre la capitale en danger en mettant de côté une génération qui est nécessaire aussi à la formation de la relève, puisqu'il faut qu'il y ait un partage, j'imagine, pour qu'il y ait un dynamisme?
Bien, retarder l'exil, c'est une bonne chose, parce que plus tu la retardes, tu retardes cet exil, plus tu t'enracines dans ta ville, dans ton coin, tu crées des réseaux. Fait que je suis pas certaine que ça reporte tant que ça... Peut-être un peu, mais ça élimine pas la question qu'il y a une certaine génération qui est un petit peu laissée sur le côté du chemin et qui a besoin d'être soutenue. Et ça, moi, ça rejoint des préoccupations que j'ai. Je trouve qu'il faut travailler beaucoup au développement de la discipline. Et le développement de la discipline, c'est tous les âges de cette discipline. Alors, il faut que nos subventionneurs, les gens qui nous supportent, soient présents à toutes ces étapes là, du développement de la discipline et à sa diffusion. Et aussi, un autre secteur qui est très, très important, c'est le développement de public, où là aussi, on a besoin d'être aidé et supporté dans tous nos efforts de démocratisation de la culture. Moi, je pense que les festivals, les grands événements sont des façons de démocratiser la culture, mais il y a aussi toute cette culture culture en profondeur qui se vit dans tous les quartiers, dans tous les théâtres, les bibliothèques, les événements, les galeries, les musées, les salles de concert, toute cette effervescence quotidienne qui est là et qu'il faut aider à se développer. Alors ces choses-là se font de concert et pour moi l'un aide l'autre. Il faut pas les oublier, tu sais.
Et si on regarde, j'imagine que la réalité est différente dans un au théâtre qui est quand même et aux arts visuels qui sont quand même relativement bien établis à Québec, mais j'ai l'impression que le milieu littéraire, on sait qu'il existe, mais il est encore très en émergence, du moins dans la perception que j'en ai. Et surtout vous, Thomas Louis, vous intéressez tout particulièrement à la bande dessinée qui est encore plus en marge peut-être de ce mouvement-là. Donc,
mais c'est certain que le nombre d'auteurs à Québec, bien que la ville de Québec en bande dessinée compte un nombre impressionnant d'auteurs par rapport à d'autres régions du Québec, ça reste assez minime. Cependant, les auteurs qui sont établis ici ont une visibilité internationale qui reflète sur la ville de Québec. On parlait tantôt de Philippe Girard, dont il y avait un article dans Le Soleil ce week-end où on sait qu'elle allait être traduite en russe. Il y a d'autres auteurs comme Jacques Lamontagne, JF, qui sont eux publiés en Europe et qui eux aussi sont retraduits en néerlandais et en d'autres langues. Donc, c'est des succès qui reviennent à la ville de Québec et donc, on attire des gens ici avec ces auteurs-là. C'est pour ça que dans le cadre d'un événement comme le nôtre, où on réussit à avoir un bon nombre d'auteurs, on avait l'année dernière une soixantaine d'auteurs, le fait d'avoir à Québec un bon noyau permet de densifier notre événement, puis d'avoir déjà la possibilité de faire des initiatives à l'année avec ces gens-là, puis d'aider à dynamiser le milieu. Mais reste que la bande dessinée, effectivement, ça reste un peu marginal encore. C'est pas un genre qui est reconnu par rapport aux genres littéraires comme le roman ou le polar et ces choses-là. Mais la Ville de Québec, on a plusieurs projets en branle pour essayer de dynamiser ça et on a une bonne écoute de la part de la Ville pour tout ce qu'on propose.
On a ouvert la porte tout à l'heure sur la question de développement de public, sur l'importance de développer des publics dans les différentes disciplines. J'aimerais qu'on s'y intéresse un peu plus en profondeur. Où en est-on peut-être en termes de public? Qu'est-ce qui reste à faire, selon vous, dans le développement de public dans vos disciplines respectives?
Ben moi, pour parler du domaine des arts visuels, c'est un domaine qui est encore très méconnu à Québec. Il y a des efforts qui sont faits. Je prends l'exemple de deux événements qui investissent dans le développement public. Je pense à la Manif d'art et je pense au Mois Multi, qui sont des événements qui durent pendant plusieurs semaines et où des efforts sont faits, par exemple, auprès des clientèles scolaires, auprès des groupes scolaires pour qu'ils viennent découvrir. Donc, c'est une relève en termes de potentiel de clientèle. Mais c'est certain que dans le domaine de l'art actuel à Québec, le développement public, il n'est pas facile à faire parce qu'on est dans une niche culturelle qui est assez spécialisée, si je peux dire, qui est assez difficile d'accès, pas toujours facile d'accès. L'émission que j'anime ici sert entre autres à vulgariser un peu ce qui se fait dans ces centres d'artistes-là. Donc, il y a des efforts qui doivent être faits, mais ça ne pourra jamais vouloir dire qu'il faille que le produit, si on peut parler de produit, devienne populaire ou soit vulgarisé. Il y aura toujours un travail d'initiation, de sensibilisation qui reste à faire. Et les centres d'artistes là-dessus ont un travail à faire, je pense, pour un peu trop souvent, quand on va dans les galeries des centres d'artistes, il n'y a personne qui nous accueille pour nous expliquer quelle est la démarche de la personne qui expose là. Et ça, je pense que c'est un effort que les centres d'artistes devraient faire.
Donc, il faut avoir des accompagnants. Il ne faut pas être laissé seul devant la toile.
Oui, oui.
Oui, moi, je pense que il y a vraiment beaucoup de travail qui se fait en développement de public, mais il y a encore aussi beaucoup de travail à faire en développement de public. Moi, je dis souvent, la culture, de façon générale, pour moi, c'est un service public. Mm-hmm. C'est aussi nécessaire d'avoir des théâtres, des musées, des salles de concert, des livres, du cinéma, de la télévision, qu'une école, un hôpital. Ça fait partie de la vie. On a besoin de se raconter, de se voir sur scène, de se raconter des histoires. Qu'est-ce que ce serait si on se racontait jamais d'histoires? On ferait pitié. Hein? Oui. C'est nécessaire l'imagination, c'est nécessaire comme le sang dans nos veines. On a besoin. Donc, compte tenu de cette prémisse, le développement public va de soi. Et le développement public, pour moi, c'est vraiment un échange. C'est le public aussi qui apporte des choses. Nous autres, on n'est pas en haut en train de dire « mais maintenant, la culture, c'est comme ça ». Non, 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 non. C'est un échange avec le public qui vient aussi nous raconter des histoires et nous, on leur raconte des histoires. Je parle du théâtre, bien sûr. Il faut arriver, quand je dis ça, ils viennent nous raconter des histoires, c'est qu'il faut, à mon avis, avoir une conversation avec ce public-là. Et comme disait Jean-Pierre, il faut que ce développement de public-là soit adapté avec ce que tu fais. Tu peux pas faire un développement de public de façon très large si ce que tu fais est un peu plus pointu. Il faut vraiment l'adapter à ce que tu fais. Mais faut toujours être préoccupé de ça. Et pour ce développement de public adapté à chacune des pratiques et à chacun des objets que nous faisons, il nous faut du support pour faire ça. Et il nous faut du support qui n'est pas seulement ponctuel, mais qui est à long terme. Parce que ça, c'est vraiment du travail de racine. C'est du travail à long terme. Parce que c'est comme si fallait encourager la population à prendre possession des lieux, à prendre possession de cette culture, via la remettre en cause aussi. C'est une conversation, hein? Les arts, c'est une conversation. C'est pas dans un sens.
Moi, j'ajouterais à ce que Marie-Ginette dit que dans le domaine des arts de la scène, les meilleurs vendeurs, si je peux dire, auprès du public, ce sont les comédiens, ce sont les acteurs, au même titre que la chanson. Dans le domaine des arts visuels, la problématique est très différente. Les artistes sont en art visuel, comme en bande dessinée. Ils sont dans leur atelier, ce sont des solitaires. Ce ne sont pas des gens dont le métier est de prendre la parole ou d'échanger ou de communiquer. Eux se retrouvent, il faut les voir souvent dans les vernissages, ces artistes-là qui sont un peu coincés, ils savent pas trop comment échanger avec le... Et les gens aussi se disent, mon Dieu, est-ce que je peux lui parler? C'est tellement compliqué ce qu'il nous présente. Donc, il y a, dans le domaine des arts visuels, c'est certain qu'on a besoin de ce qu'on appelle des médiateurs, des personnes qui vont être entre les deux, entre le public et les artistes. Mm-hmm. Et ça, il y a des efforts qui commencent à se faire là-dessus. Il y a déjà eu un gros colloque il y a 2 ans au Musée national des Beaux-Arts sur ce rôle important de médiateur. Nous, ce qu'on fait, c'est en partie un travail de médiation.
À l'émission.
Ouais. Et il devrait y avoir plus que ça. Je déplore, par exemple, que dans le journal Voir, c'est triste qu'Antoine ne soit pas là, mais dans le Voir, il y a de moins en moins d'espace qui est réservé aux arts visuels. Et Dieu sait que c'est important. Ce sont des jours. Donc, les médias ont un rôle important aussi à jouer dans le domaine de la médiation pour les arts visuels.
C'est un gros dossier.
Le théâtre est très bien traité, puis c'est parfait. Moi,
mais tu vois, nous, on trouve qu'on n'est pas assez bien traité. En fait, on vit la même chose là dans notre milieu. On voudrait qu'on en parle davantage, qu'il y a pas assez d'espace, qu'il dévolue au théâtre, aux arts visuels, à la littérature, qu'on parle davantage de télévision et de cinéma.
Ouais.
Est-ce que ça va avec l'argent qui est investi? C'est une question qu'on peut poser.
Mmh. Est-ce que c'est une réalité qu'on ressent au niveau littéraire, au niveau de la BD?
Ben, je regarde, on parle du Voir et de d'autres médias de Québec. Et la bande dessinée est très, très, très peu présente dans ces médias-là. Si on regarde dans le Voir, par exemple, les critiques littéraires viennent de Montréal. C'est difficile, des fois, de pousser quand on est à Québec pour changer les choses. C'était la même chose pour le Journal de Québec où les critiques venaient de Montréal, mais pour l'instant, je pense que ça a changé. Mais c'est certain qu'en littérature, on prête souvent l'intention que ça s'intéresse peu les gens. La poésie, la même chose. J'ai déjà eu des discussions avec des journalistes et ils avaient occulté complètement la poésie de leur sujet parce que ça intéresse pas les gens. Mais ça intéresse pas les gens tant qu'on n'en parle pas.
Mais
parce
oui.
que dès qu'on commence à en traiter, c'est fou. Il y a des lecteurs, il y a des gens qui vont s'intéresser. Puis les gens vont chercher ces critiques-là, vont essayer de voir ce qui se passe. En bande dessinée, c'est la même chose où, par exemple, dans Le Soleil, il y a assez régulièrement une bonne critique d'à peu près 5 ou 6 bandes dessinées, ben c'est toujours intéressant de voir ça, parce qu'on parlait justement de Jean-Philippe Philippe Girard, qui a été traduit en russe tantôt. S'il n'en avait pas parlé, personne ne l'aurait su.
Ben non, ben
et,
non.
C'est bien de parler des succès puis de ce qui se fait ici dans les médias pour justement le faire voir, le faire savoir. Là.
C'est à la limite, en fait, ça me fait penser à une prophétie autoproclamée. Dans le fond, on dit les gens s'y intéressent pas, donc on n'en parle pas. Parce qu'on n'en parle pas, les gens s'y intéressent pas. C'est un peu comme au Festival d'été où on ne parle que des gros shows sur les plaines d'Abraham. On occulte un peu les petits spectacles. Donc, est-ce que, dans le fond, il y aurait un devoir un peu, soit du citoyen à demander d'être au courant, soit d'essayer d'outiller, de mieux outiller, justement, les petites productions pour qu'ils puissent être diffusés, peut-être, de manière un peu plus complète? Ou, en même temps, est-ce qu'il y a une situation de marge,
en même temps,
qui est à confirmer, qui est à conserver?
C'est un peu la vie, là, tu sais, mm-hmm. Le vedettariat, c'est ça, puis, tu sais... C'est ça. Je ne sais pas trop comment on peut faire autrement, mais c'est sûr que ça serait vraiment agréable si on pouvait avoir un peu plus d'espace pour parler de l'ensemble des manifestations et puis de la profondeur de la pratique culturelle, tu sais, puis de pas juste s'en tenir à ce qui est le dessus, ce qui est les manifestations de masse et de vedettariat. Mais il y a aussi ça, là, tu sais, et peut-être que ça parfois provoque un intérêt pour ce qui se fait ailleurs aussi, mais bon.
J'amène un peu, en même temps, c'est un point intéressant, c'est que la question du vedettariat et de la culture, quand on regarde, par exemple, le débat qu'il y avait eu en campagne électorale autour des coupures, ben on ramenait beaucoup la culture au point de vue du vedettariat. On oubliait un peu la culture, la base, la culture, dans le fond, qui, elle, a besoin d'être appuyée, justement, doublement.
Mais c'est sûr que, comme Marie-Ginette dit, c'est un peu, c'est la vie, hein. Il y a de beaux exemples de rencontres avec le public. Je pense à ce que Harold Réaume a fait avec le fil de l'histoire.
Oui.
Dans la même, sur le même parcours, on a l'hiver un événement, zéro au plan culturel, le crash bull, cette espèce de descente en patin, quelque chose qui est très testostérone et qui a rien à voir avec la culture. Sur le même parcours, Harold Réaume est arrivé depuis 2 étés avec des danseurs en danse contemporaine et ils ont descendu la côte de la montagne jusqu'au musée de la civilisation. Et c'était de voir, moi j'ai assisté au moins 10 de fois à ce show-là et j'observais la réaction du public. Mm-hmm. Et le public s'y intéressait. Mm-hmm. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Et là, soudainement, ils voyaient que c'était un show de danse et ils accompagnaient jusqu'au musée. Et au musée, il fallait voir la fin de ce show-là pour voir comment le public était débordant d'enthousiasme et ça applaudissait cette innovation. Donc, la culture, c'est pas vrai qu'elle n'est pas accessible au public, mais c'est certain que c'est pas tout le monde, c'est pas tous les médias qui vont parler de ça. Harold Réaume, mais ils ont dû payer de la grosse publicité dans Le Voir puis dans Le Soleil pour pouvoir amener du monde à leur spectacle. Et c'est malheureusement, c'est encore ça qui détermine l'achalandage des différents événements culturels.
Parce qu'on voit que ça intéresse les gens.
Oui, ça intéresse les gens.
Il y a d'autres, faut pas présumer que ça les intéresse pas. Parce qu'il y a d'autres événements comme ça qui ont aussi piqué la curiosité des gens puis qui a été un succès extraordinaire. Tout le parcours qu'il y a eu au Carrefour. Que Frédéric Dubois a organisé avec Véronique Côté et d'autres artistes. Ça a été un succès extraordinaire.
Les gens de Québec sont participatifs.
Ils sont très participatifs. Ce que Nancy Bernier a fait l'année passée dans le cadre du 400e, le parcours qu'elle a fait l'Esplanade, ça aussi, ça a été un succès considérable. Ce que Karine Ledoyen fait sur le quai en danse, ça a un succès extraordinaire. Mais là, c'est toutes des événements qui sont gratuits et qui font événement. Et ça, c'est super intéressant. Et moi, je pense que ça, c'est des choses qui se font aussi du développement de public et qui prouvent que les gens sont intéressés. Maintenant, il faut, nous aussi, avec l'aide de nos amis de la ville et d'ailleurs, continuer ce beau travail de développement de public et continuer le travail de fond pour justement garder ce public-là, le garder curieux de nous, hein, et l'amener avec nous, et le garder en conversation avec nous.
J'aimerais qu'on s'intéresse pour ce bloc, notamment à la question des lieux de diffusion. Dans tous ces domaines-là, est-ce qu'on a l'impression qu'il y a suffisamment de lieux de diffusion à Québec qui pourraient être soit mieux appuyés, ou qu'au contraire, il manque de lieux de diffusion carrément, il faudrait trouver des manières d'en développer?
Pour ce qui est des arts visuels, les lieux de diffusion, maintenant avec l'avenue de la galerie Dzara qui s'est ajoutée, les petites galeries, les centres d'artistes et les galeries sont font le travail dans le domaine des arts visuels. Ce qui manque en arts visuels à Québec, et j'étais à Nice moi, au printemps dernier, Nice qui est une ville d'à peu près la même taille évidemment que Québec, mais on n'est pas évidemment, on est en France. Et Nice a choisi d'établir un musée d'art contemporain il y a 10 ans. Et donc, un musée qui permet de présenter des collections. En art contemporain, ce qu'il faut savoir, c'est que les œuvres sont de plus en plus en 3 dimensions, de plus en plus grandes. Il n'y a pas de salle ici pour pouvoir exposer, faire une rétrospective d'artistes d'importance de Québec ou de l'extérieur. Il n'y a pas de grande salle pour ça ici. Et ça, c'est un manque en art visuel. On n'est pas capable de faire une rétrospective, par exemple, d'Aline Martineau ou de Jean-Pierre Morin, parce qu'on n'a pas les lieux pour ça. Et Dieu sait qu'un bonhomme comme Martin Bureau, c'est ses dernières productions, il y a une œuvre qui fait 23 pieds. Il l'a présentée chez la CERT, mais jamais que cette œuvre-là pouvait être vue avec toute sa dimension dans un lieu aussi petit. Il aurait fallu qu'il y ait un lieu plus grand. Donc, ce qu'il manque à Québec en art visuel, c'est vraiment un lieu important d'exposition. La Manif d'art, qui est un des événements importants au plan de la culture en art visuel, n'a pas de locaux stable. Donc, à chaque année, elle est obligée de courir, de se trouver un lieu pour présenter des artistes internationaux. Et elle se retrouve dans des petits lieux exigus, ce qui fait que ça hypothèque ses choix d'artistes à inviter et aussi la taille des œuvres. Donc, dans le domaine des arts visuels, c'est certain qu'il manque un vrai lieu de diffusion
important. Et est-ce qu'on a l'impression qu'il y aurait une ouverture, par exemple, avec les agrandissements du Musée national des beaux-arts?
Le musée a sa propre collection. Il réussit à peine à présenter 2% de sa collection. Donc, et le musée, c'est un musée national qui ne couvre pas que l'art contemporain. Il couvre l'ensemble des périodes de l'art autant au Québec qu'au Canada. Donc, c'est pas son mandat premier.
Et regarde aussi sur la diffusion en littérature BD, en théâtre.
Ben, si je regarde, moi, la bande dessinée a l'avantage d'être un art hybride, si on veut. Donc, au niveau du livre, on retrouve bien sûr en bibliothèque, en librairie, une assez bonne diffusion. Puis si on regarde avec la refonte de la bibliothèque Gabriel Leroy, la bande dessinée va quand même avoir une belle place. Cependant, si on considère les auteurs de bande dessinée, surtout les dessinateurs, comme des artistes, ben, il n'existe pas de lieu au Québec de diffusion pour la bande dessinée. Donc, durant le festival, on réussit à faire festival de la bande dessinée, on réussit à faire quand même plusieurs expositions pour essayer de donner une visibilité aux auteurs de Québec et d'ailleurs, mais durant l'année, il y a très peu ou sinon aucune autre exposition de bande dessinée. Mm-hmm.
Et qu'est-ce qu'il faudrait justement mettre de l'avant pour réussir à se donner ce lieu, ce moment-là ou cette diffusion-là dont on aurait besoin?
Bien, je dirais qu'il y a déjà des projets qui sont sur la table à ce niveau-là, là, parce que de créer ça à Québec, je pense que ça serait un point d'ancrage assez intéressant pour la bande dessinée au Québec et ça nous permettrait de travailler beaucoup plus à l'international aussi pour l'accueil d'expositions et de d'autres genres de projets parce que en Europe, il en existe quand même quelques-uns. Ils viennent d'ouvrir à Angoulême, justement, le Musée national de la bande dessinée de France. C'est un musée qui est à peu près de la grosseur du Musée du Québec ici, mais consacré exclusivement à la bande dessinée. Donc, ailleurs, ça se fait et je vois pas pourquoi au Québec, là, ça se ferait pas.
Moi, ça me fait penser à ce qu'on peut faire de façon croisée entre les différents arts. Nous, chez nous, dans le foyer, mm-hmm. on expose les œuvres de la Galerie L'Œil de Poisson, là, qui travaille avec les jeunes artistes. C'est des choses qui peuvent se faire aussi dans les théâtres et d'autres institutions, d'offrir ces murs, ces espaces publics à des expositions, disons, de bandes dessinées ou de jeunes artistes ou mm-hmm. d'artistes plus établis. C'est le genre de choses qui est possible en diffusion. Je pense qu'on peut, comme ça, quand ça se peut, avoir des complicités, des atomes crochus avec différents secteurs. Et si je reviens à la diffusion propre du théâtre, c'est sûr que pour nous, il y a beaucoup de travail. Il y a plusieurs lieux à Québec, mais la pression est forte parce que il y a beaucoup de jeunes compagnies. Il y a beaucoup de compagnies établies puisque ça fait maintenant plusieurs années qu'il y a des compagnies qui sont installées, enracinées à Québec, qui côtoient des plus jeunes compagnies, des artistes tout frais aussi qui arrivent dans le milieu. Alors, la pression est forte pour accueillir tout ce monde-là qui ont beaucoup de bons projets et parfois, il n'y a pas la place pour tout ce monde-là. Fait que...
Donc, la venue d'un projet comme le Diamant pourrait être très positif.
Je pense que oui, je pense que c'est quelque chose qui peut dynamiser le milieu, absolument, absolument. Et puis pour nous, comme le Théâtre Périscope, des fois, on se retrouve dans des dilemmes où on n'a pas toujours les moyens de toutes nos ambitions, d'accueillir tout le monde qu'on voudrait parce qu'on peut pas, parce que aussi il y a des limites de public. Hein. L'offre est là, mais à un moment donné, les gens ils peuvent pas aller tout voir et aller tout voir deux fois. Ça fait qu'il y a tout un... Il y a comme une espèce de chimie, de recette, de quelque chose à faire pour équilibrer tout ça, pour essayer d'être le plus ouvert possible à toute l'actualité de ce qui se fait en art, en même temps de pouvoir offrir ça de façon agréable et accessible au public aussi. Tu sais, faut que ce soit fréquenté.
Et ça amène d'ailleurs l'autre défi à la limite, c'est, on parlait tout à l'heure donc de démocratisation, de rendre accessible, d'attirer un certain public, et en parallèle, je pense dans tous les domaines, il y a des productions, et Jean-Pierre le mentionnait d'ailleurs en cours de route, il y a des productions qui sont pas destinées nécessairement à attirer un public. Il y en a d'autres qui sont même spécialisées au point où leur objectif est de faire avancer la discipline.
Ouais. Mm-hmm. Donc ça, on a besoin de ça.
Oui.
Et comment on peut appuyer ça, et comment on peut dire, ben voilà, on donne des sous, on demande des subventions pour des choses qui attireront peut-être personne en dehors d'un public très spécialisé.
Oui. Mais ça, c'est le Conseil des arts, le Conseil des arts et des lettres du Québec fait il y a des programmes de subventions pour la recherche. Plein d'artistes en arts visuels font à chaque année des demandes de subventions parce que ce sont d'abord des chercheurs, les artistes en arts visuels. C'est des gens qui repoussent les limites du domaine et qui ne le font pas dans le but de plaire à un public, mais de faire avancer leur art et éventuellement ce qu'ils vont trouver. D'autres vont le réutiliser. Ce ne sont pas des peintres qui vont peindre des beaux paysages de Charlevoix parce qu'ils vont savoir que ça va bien se vendre dans les galeries. Les artistes, d'autres, ils ont besoin. Et le Conseil des arts et des lettres le fait le travail. La Ville de Québec devrait le faire également. Je connais pas trop les programmes de subvention là-dedans. Mais il est clair qu'on ne peut pas s'attendre à ce que ces artistes-là soient des artistes grand public. Ils ont un rôle de recherche à faire et ce sont des précurseurs dans le domaine de la création artistique et c'est pour ça qu'ils existent aussi.
Ouais, puis si on parle en termes économiques, c'est pas de l'argent donné quand on appuie ça, c'est vraiment de l'investissement. Ben oui. Parce que ça fait avancer les choses, ça fait avancer la forme ou la façon de parler de telle ou telle chose. C'est de l'oxygène qui est apporté à nos disciplines, à chacune des disciplines. C'est vraiment très, très important. Bon, si je parle de ce qu'on fait au Périscope, notre activité d'impression d'ici qui est des textes, d'encourager des auteurs à travailler sur des textes, on fait cette activité-là de façon assez modeste, mais ça encourage des auteurs à travailler, ils vont avoir un public, et puis à partir de ça, ils peuvent continuer à travailler. Et il y a, je sais pas moi, une cinquantaine de personnes qui voient une lecture, mais ça, ce travail-là qui est presque dans l'intimité, hein, on peut dire, ce travail-là est très important pour les auteurs et les comédiens et d'avoir cet échange-là avec le public pour continuer à travailler, à peaufiner cette matière dramatique. Et puis, dans plusieurs cas, des pièces qui ont été lues à cet événement-là se sont retrouvées sur nos scènes. Alors, c'est l'oxygène, c'est ce qui amène du nouveau à nos disciplines. C'est très important. Puis il y a plusieurs activités de développement de la discipline comme ça qui sont très importantes et qu'il faut qu'ils soient soutenus.
Et dernier mot là-dessus, Thomas-Louis.
Ben, moi, je regarde en littérature, ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est de travailler avec les éditeurs de Québec, qui, eux, sont ont une très bonne place pour donner une visibilité aux auteurs de Québec aussi. Donc, de travailler avec des gens comme les éditions Alto, L'Instant Même, pour les encourager à rester ici, puis à continuer à éditer. Donc, je ne sais pas le rôle que la ville pourrait prendre là-dedans, mais certainement qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là.
Et Thomas-Louis Côté, Jean-Pierre Gay, vous restez avec nous, mais enfin, on va dire au revoir à Marie-Ginette
Oui.
Gay, qui s'en va en répétition.
Ben oui, je m'en vais répéter. Je vais répéter un premier spectacle du Théâtre de la Bordée qui commence le 15 septembre. Petite plug en passant. 4 à 4 de Michel Garneau. C'est une belle aventure. Un texte de Garneau là, des années 70 qui est repris par une très jeune metteur en scène, Marie-Hélène Gendreau. Alors, c'est très intéressant de revoir notre répertoire québécois avec des yeux jeunes.
Et Marie-Hélène Gendreau qui nous avait donné L'Ouest solitaire.
Oui, qui était un très, très beau spectacle. Oui.
Et Marie-Ginette Gay, j'aimerais te laisser ton mot de la fin, dans le fond. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça?
Ben moi, je pense qu'il faut porter une grande attention à la profondeur de la culture à Québec et la soutenir dans son quotidien. Y être attentif et en parler et la mettre davantage sur la place publique. Parce que ça va aussi en accord avec tous les festivals, avec tout ça, avec l'effervescence de la ville. La ville, c'est ses feux d'artifice, c'est ses éclats, mais c'est aussi tout le travail souterrain et le travail qui n'est pas souterrain du tout, qui est très public, de nos théâtres, de nos galeries, de nos bibliothèques, de nos salles de concert. Arriver à faire un mariage heureux de tout ça. Il n'y a pas délaissé ce travail en profondeur. Et aussi, peut-être, je dirais, porter une attention spéciale à cette génération qui, maintenant, a un peu plus de 35 ans et qui, parfois, décide de nous quitter. Comment on pourrait les garder avec nous? Quelle sorte de projet pourrait les intéresser à s'enraciner davantage avec nous, tout en étant capable de rayonner ailleurs. Parce que c'est très intéressant de faire des choses ici et ailleurs.
Marie-Ginette Gay, directrice artistique du Théâtre Périscope et comédienne, merci beaucoup.
Merci à vous.
Et bien nous, on reste justement, comme je le disais, avec Jean-Pierre Gay et Thomas-Louis Côté. Et je me tourne vers Thomas-Louis Côté. Parlons un peu de littérature. J'ai l'impression que quand on parle de cet univers-là à Québec, c'est beaucoup centré sur le Salon du livre. C'est là où on met tous les phares, les lumières. Est-ce qu'il y a une vie au-delà du Salon du livre?
C'est sûr que le Salon du livre, c'est un moment marquant du monde littéraire à Québec durant l'année. Cependant, il existe effectivement plusieurs autres choses à d'autres moments de l'année. Il y a la Ligue de Slam, c'est ça, donc il va s'implanter aussi à Québec bientôt un nouvel événement qui va être le Festival des arts littéraires, quelque chose qui a été annoncé durant Québec Horizon Culture. Donc, si on est capable de donner aux auteurs, autant de bandes dessinées que littérature, des vitrines durant l'année à travers des événements, tant mieux. Je dirais, plus il y en a, mieux c'est. Là. C'est pour éveiller la curiosité chez les gens, leur faire découvrir les auteurs d'ici. Là.
Parce que... Moi, j'ajouterais à ça le réseau des bibliothèques de la Ville de Québec. Je veux saluer ce réseau-là. Ils ont un programme d'animation extrêmement intéressant qui, entre autres, favorise des rencontres d'auteurs, des ateliers d'écriture et tout ça. Donc, au plan de la littérature, je pense que le réseau des bibliothèques de la Ville de Québec fait son travail fait bien son travail. Si on parlait de la ville tout à l'heure, je pense qu'ils font bien leur travail de ce point de vue-là.
Et est-ce qu'on a l'impression qu'éventuellement, on va être capable de soutenir à Québec un bon bassin d'auteurs, que ce soit BD, que ce soit littérature? Est-ce qu'on en a déjà un qui est présent?
Comme je disais, en bande dessinée, c'est un bassin, on parle peut-être de 25 à 30 auteurs. Il y en a là-dessus qui sont publiés en Europe. Donc, peut-être que vivre de la bande dessinée, encore aujourd'hui, est quelque chose qui est extrêmement difficile. Je dirais, à moins d'être publié en Europe, qui ont des façons de faire qui sont différentes d'ici, c'est pour l'instant à peu près impossible. Je crois qu'il y a un ou deux auteurs au Québec qui ne sont pas publiés en Europe et qui peuvent vivre de la bande dessinée, mis à part ceux qui dessinent de façon régulière dans les journaux et des choses comme ça. Mais c'est pour supporter, je pense, c'est vraiment de les montrer. Je parlais des journaux, mais dans les journaux comme le Soleil, le Journal de Québec, où il y a de la bande dessinée, il y a Garfield, il y a Blondie, il y en a d'autres. Mais
pourquoi
il y
pas des auteurs d'ici?
Il y en a plusieurs qui seraient prêts à le faire. Cependant, avec les tarifs qui sont offerts par les syndicats américains, il y a pas un journal qui va être intéressé à débourser pour des auteurs d'ici, là. Donc, de leur donner de plus en plus de portes de diffusion pour leur bande dessinée, quitte à faire des prépublications dans les journaux comme ça se fait ailleurs, pour permettre à des gens d'ici de découvrir la bande dessinée québécoise à travers quelques planches, ben ça pourrait être des bonnes idées, là.
Et en parallèle, un autre moyen de diffusion qu'on a, si on se penche vers les arts visuels, c'est toute la question aussi de l'art urbain. Quand on croise l'art dans la ville, quel regard on peut porter là-dessus? Est-ce qu'il y a des bonifications peut-être à faire?
Ben, on a vécu une triste histoire récemment. On avait reçu ici, à ton émission, Raymond, Alain Brodeur, qui a pris l'initiative d'inviter des peintres et un photographe illustre de Québec, Claude Elliott, à décorer, à exposer sur sa demeure dans le quartier Saint-Sauveur. Et il s'est fait sanctionner par la ville parce qu'il n'a pas le droit d'afficher commercialement. C'était textuellement ce que la ville lui disait. Donc, il n'y a pas de politique actuellement à la ville de Québec qui favorise la création, l'art public, qui favorise le. Il n'y a pas de programme d'art public. Il faut que les gens aillent en dérogation à un règlement qui interdit d'afficher. C'est un peu fou. Alors qu'on est dans une ville qui mise sur la culture. Le maire Lallier a amené beaucoup dans la rue. Je pense, prenons par exemple les tournevents de Paul Béliveau sur Honoré Mercier. Donc, c'était important pour le maire Lallier d'avoir une ville qui où l'art était présent dans la rue. Et ça devrait aller dans le même esprit actuellement du maire Labeaume qui veut pousser sur la culture. Il devrait avoir un programme d'art public, sans nécessairement qu'il y ait de l'argent là-dedans, mais qui baliserait, qui ferait en sorte que quelqu'un devrait juste demander une autorisation pour afficher et il l'aurait facilement.
De favoriser les initiatives citoyennes, que exactement. Si moi, en tant que citoyen, je veux exposer quelque chose, je veux donner de la visibilité à un artiste, mais je puisse le faire.
Et que ça soit reconnu par la ville, par un programme, pour éviter aussi, parce que bon, on a eu un débat là-dessus, éviter qu'il y ait n'importe quoi, mais... Donc, il devrait y avoir un petit programme d'art public qui pourrait favoriser justement ces initiatives citoyennes ou encore des entreprises qui veulent faire une construction puis intégrer l'art dans leur construction.
Et donc, on a discuté ce matin de considérations autour des réalités culturelles de Québec. Jean-Pierre Gay, Thomas-Louis Côté, c'est un peu le moment du mot de la fin. De tout ça, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? S'il y a des futurs élus peut-être aussi qui nous écoutent, qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils retiennent de ce dont on a discuté ce matin?
Moi, je dirais que, un peu ce que Marie Ginette disait, l'art, la culture à Québec, c'est une vaste gamme de choses qui comprend bien sûr les grands événements, les événements à large public, mais qui comprend aussi ces chercheurs, ces artistes de niche. Et tout ça doit faire partie du discours. Ce que je déplorais au début d'émission, c'est que ce n'est pas dans le discours du maire à tout le moins. Et je souhaiterais que dans son discours, il y ait aussi une place pour ceux qui sont des artistes d'avant-garde et qui contribuent à la renommée de Québec aussi, parce que plusieurs sont connus à l'étranger. Donc, que dans le discours, on ait une place pour tout ce beau monde-là.
Puis que d'inviter peut-être les élus à être un peu plus curieux de ce qui compose le milieu culturel à Québec, donc de venir découvrir les artistes, de participer à des activités qui sont en marge des grands événements, justement, et aussi de lire ce qui se fait à Québec. Là.
Thomas-Louis Côté, Jean-Pierre Gay, merci beaucoup à vous deux.
Merci.
Et nous, ben, c'est ainsi qu'on termine ce deuxième jour de réflexion. Bien entendu, des réflexions qui vont se poursuivre au fil de la semaine.